RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, toujours consacrée à la lèpre ce matin, la lèpre qui touche chaque année plus de 3 millions de personnes à travers le monde. Et on va faire un focus, hein, je l'ai dit, sur Madagascar où la lèpre est toujours endémique et qui concerne près de 1500 personnes. Comment la fondation Raoul Folraud agit sur place? Nos invités vont tout nous dire et vous êtes toujours les bienvenus au 04 72 38 20 23 pour peut-être venir poser toutes vos questions, vos interrogations autour de cette maladie. Vous pouvez nous laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous retrouverons comme chaque jeudi notre chroniqueuse, c'est Stéphanie Gallet qu'on entendait il y a quelques instants pour l'opération Jeudi Photo. Stéphanie décryptera une photo choisie par le CCFD Terre Solidaire. Ça nous permet de poser un autre regard sur le monde pour saisir également les défis auxquels sont confrontées certaines populations à travers la planète. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Melchior, bonjour à tous. Alors, je souhaite témoigner ce matin d'un souvenir et d'une expérience. J'avais 8 ans en 1972 à Madagascar. Avec le catéchisme, nous avons organisé un spectacle pour des personnes atteintes de la lèpre qui vivaient dans un village parqué, c'est le terme juste. Et je garde un souvenir très très poignant et c'est la première fois finalement depuis cette année 1972 que j'en parle.
Oui.
D'une part, je garde un souvenir où j'étais choquée un peu par cette exclusion d'aller dans un village où des personnes étaient malades et que des personnes malades. Et puis également, je garde de manière très profonde dans mon cœur, cette joie que je voyais sur le visage des enfants, des parents, alors que nous dansions devant eux, alors qu'il y avait un goûter, des gâteaux que nous avions préparés, cuisinés. Et c'était vraiment pour moi une première expérience profonde d'humanité, parce qu'il y avait aussi dans la lumière de toutes ces personnes une flamme d'espérance, une lumière d'espérance. Et je dirais comme ça, en ayant ce regard sur le passé, que c'est peut-être la première fois que je rencontrais le Christ, en fait, dans ces regards. Je suis très touchée d'en parler. Et puis, pour terminer, je rencontre cette année, en début d'année, un saint qui s'appelle le saint Damien de Molokai, qui est un prêtre catholique qui était missionnaire à Hawaï, qui a lui-même été atteint de la maladie de la lèpre, et qui est le saint patron protecteur des lépreux, que je prie tous les jours.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nathalie de nous avoir raconté vos souvenirs 1972, hein, si j'ai bien noté. Merci Nathalie pour votre appel au 04 72 38 20 23 et c'est une bonne entrée en matière pour notre sujet jusqu'à 11h. Je vais vous présenter les deux personnes qui sont autour de cette table jusqu'à 11h. Rebonjour Bertrand Cauchois.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes médecin spécialiste international de la lèpre et vous êtes conseiller médical de la Fondation Raoul Folraud. À vos côtés, Sœur Sabine. Bonjour, Sœur Sabine.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes infirmière à Marana, c'est à Madagascar, dans un centre de traitement anti-lèpre. Vous avez entendu Nathalie qui nous racontait ses souvenirs de 1972 quand elle a fait ce voyage humanitaire. Elle nous a dit dans un village parqué, où on parquait les gens atteints de la maladie de la lèpre. Moi, j'ai utilisé un autre mot qu'on connaît un peu plus depuis 2020, qu'on confine les gens dans un village. Est-ce que c'est toujours le cas à Madagascar?
Oui. C'est pas, il y a ce qu'on appelle le village, il y a ce qu'on appelle les progeries, il y a aussi des centres sociaux ou centres de soins aussi, où on garde, où on suit les malades sur place. Moi, je vais parler de Marane parce que c'est ce que je connais. Donc, à Marane, c'est un centre qui a 100 ans, plus de 100 ans, et où nous avons des malades, des familles de malades, des malades guéris, en instance de réinsertion, et des malades qui sont des résidents parce que ils pourront plus rentrer chez eux vu leur âge, leur handicap, le manque de famille qui doivent les recevoir parce que ils sont fait 30 ans, 40 ans à la léproserie de Marane et ils n'ont jamais eu personne qui demande de leurs nouvelles. Donc, est-ce que ça existe toujours ou bien ils sont déjà oubliés? Est-ce qu'ils existent toujours par rapport à leur famille, leurs parents? Donc, il y a ce genre de personnes, mais il y a aussi des nouveau-nés parce qu'il y a des malades, des mariages qui se sont contractés entre les anciens malades. Et quelquefois aussi, les couples qui arrivent tous les deux malades ou tous les deux malades avec un enfant malade. Donc, trois membres de la famille, ils sont automatiquement logés parce qu'habituellement, ils habitent loin du centre.
Sœur Sabine, pourquoi vous avez décidé dans votre vie, dans votre parcours professionnel d'infirmière, puisque vous avez fait une école d'infirmière, pourquoi vous avez décidé de vous initier à la lutte contre la lèpre?
Bon, d'abord, je suis religieuse. Hein.
Oui.
Je suis infirmière de profession. Quand on est religieuse, on n'a pas choisi expressément. Je n'ai jamais dit que je vais travailler dans une léproserie. D'ailleurs, j'étais d'abord dans une école, puis dans des dispensaires qui n'a rien à voir avec la lèpre. Mais les gens venaient et c'est là que j'ai dépisté aussi la lèpre. Mais toujours jeune fille en recherche, j'ai eu un moment de vacances à la léproserie, c'est-à-dire à la communauté des sœurs. Et là, automatiquement, que tu le veux ou non, tu es en vacances, tu es venu rendre service. On nous envoyait faire le catéchisme chez les malades ou bien faire des pansements ou bien aider aussi dans les champs. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert aussi la lèpre pour la première fois. Et je n'avais pas le choix de dire je vais revenir travailler ici. Mais dans ma formation et dans le fait que je suis religieuse, j'obéis à une obédience qu'on m'offre. Donc, ma première obédience n'était pas d'aller à la léproserie. J'étais dans des dispensaires. Mais, 20 ans après, on m'a envoyé à la léproserie. Et je n'ai pas refusé parce que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas correct. C'est tout à fait dans mes vœux et tout à fait aussi dans ma profession.
Et vous y êtes restée depuis tout ce temps à Marana, hein, c'est ça?
Oui, maintenant je rentre dans ma 20e année de présence à Marana et je m'occupais toujours des malades avec les enfants qui sont là, qui naissent là ou bien qui sont venus avec les parents.
Mais Bertrand Cauchois, vous connaissez bien, hein, Sœur Sabine. On voyage ce matin à Madagascar, on l'a dit, pour parler de la situation de la lèpre. Bah justement, j'ai donné ce chiffre en introduction, 1500 cas chaque année à Madagascar de lèpre. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de l'évolution de la maladie à Madagascar? Est-ce qu'on est sur un nombre de malades assez stable? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis de nombreuses années?
Oui, je crois que c'est changé.
Alors, Bertrand Cauchois.
Allez, ma sœur, vous me laissez un petit peu parler. On s'entend bien avec Sœur Sabine, on travaille ensemble, on se chamaille de manière très, très amicale. Madagascar, aujourd'hui, c'est encore 1300, 1400 malades. Les progrès ont été considérables. Dans la fin des années 90, on dépistait encore 7 ou 8 000 malades. Donc les progrès ont été considérables. Aujourd'hui, on a un peu une stagnation dans les chiffres, mais cette stagnation, elle peut être aussi le reflet d'une poussée à la recherche des, pas des derniers cas malheureusement, mais à la recherche de plus de cas. Madagascar, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 50% de la population qui a un accès limité au système de santé, et depuis presque une dizaine d'années, on s'attelle à mieux couvrir les zones peu couvertes. Donc les chiffres restent à peu près stables. On n'a pas encore gagné, mais on progresse. Et la satisfaction, c'est d'avoir moins de cas à des stades de délabrement physique. Vous permettez que je fasse un petit commentaire sur l'intervention de Nathalie il y a quelque temps. Merci Nathalie pour ce témoignage qui est pour moi le reflet de l'engagement de Raoul Follereau. Je pense que Raoul Follereau est probablement à l'origine des initiatives comme celles que vous avez vécues en 1972. Alors, vous voyez, même Sœur Sabine, dans la terminologie, elle utilise encore parfois le terme léproserie, mais il faut savoir que les choses ont changé. En 1972, on avait déjà un traitement sur la lèpre, c'était un traitement unique, c'était un antibiotique, la Dapsone, qui avait la particularité de soigner mais de pas guérir définitivement. Et donc on avait encore tendance à garder les malades durablement et on avait encore des termes de léproserie. Mmh. Aujourd'hui, même si par exemple Sœur Sabine parle encore de léproserie, ça a complètement changé. Encore une fois, on dépiste des malades souvent à des stades d'exclusion, de handicap, de désocialisation. Et dans leur grande humanité, les sœurs, dans leurs différents centres, non seulement elles soignent et elles visent à remettre le malade debout et le faire repartir vers son village, mais dans certains cas, elles sont obligées de garder des malades qui sont exclus de leur société, mais surtout qui sont incapables de se réinsérer parce que à trop atteint physiquement, mais ils sont dans le centre et ils vivent dans une communauté où ils ont leur place et ils vivent complètement normalement. Oui. Donc ce sont plus des centres que de léproserie, c'est plus pareil.
Alors, si mes informations sont bonnes, Madagascar est l'un des pays où la lèpre est encore endémique, c'est-à-dire que la maladie y est présente de manière permanente. Si on s'intéresse vraiment à la lutte contre la lèpre à Madagascar, et je rappelle ce que vous avez dit, Bertrand Cauchois, dans la première partie de l'émission, ça concerne à la fois le dépistage, le traitement et la prévention de la maladie. Et puis, ça passe également par la sensibilisation. Mais c'est ce qu'on fait également ce matin dans Je pense, donc j'agis. Ça rejoint une question d'un auditeur qui nous a dit « Nous parlons beaucoup des traitements curatifs de la lèpre. Est-ce qu'il existe vraiment des traitements préventifs, Bertrand Cauchois ?»
Alors, le meilleur traitement préventif, c'est de soigner les malades contagieux pour que on rompe la chaîne de transmission. Ensuite, traitement préventif, à Madagascar, on est bien placé pour en parler. On teste la faisabilité d'une chimiothérapie, c'est-à-dire d'une antibiothérapie en dose unique, oui, qui, donnée au contact direct des malades, permettrait d'éviter le passage d'un risque d'infection à une maladie, c'est-à-dire éviter la maladie chez les contacts des malades. Donc c'est une prise de rifampicine, c'est un antibiotique qu'on donne en une seule fois. Et aujourd'hui, c'est le seul traitement préventif dont on dispose. On le sait efficace dans l'entourage immédiat des malades. La durabilité, par contre, de l'efficacité elle serait de 4 ou 5 ans. Donc c'est un outil qu'on essaye de divulguer, mais qui est encore, on va dire, en expérimentation, parce que toute la faisabilité de la mise en œuvre de cet outil est complexe. Donc, faut retenir que le meilleur traitement préventif aujourd'hui, c'est de soigner les cas le plus tôt possible, pour que quand on dépiste un cas, il n'ait pas eu le temps de contaminer son entourage. Mmh. Mais on a des outils qu'on teste.
Je reviens sur le témoignage de Nathalie, tout à l'heure au 04 72 38 20 23. Nathalie qui nous parlait de la lumière chez les malades de la lèpre. Elle nous parlait d'une flamme d'espérance. Est-ce que vous les voyez, ces flammes, Sœur Sabine, avec toutes les personnes que vous rencontrez à Madagascar?
Oui, je dirais oui, d'emblée, parce que il y a ces malades qui se trouve guéri et qui reflète vraiment de la joie. Et chez nous, c'est un peu le témoignage des gens qui passent chez nous, qu'ils ont la joie, ils ont la gaieté dans notre centre. Ils ont la joie de vivre comme tout le monde parce que, en quelque sorte, on voit toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par la lèpre. Un enfant qui n'a jamais été malade, qui est né dans une famille de couple malade, ils n'ont pas atteint jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans maintenant, celle que je connais. Un couple qui a 7 enfants, aucun enfant n'a contracté la lèpre. Or, ils ont plus ou moins vécu à la léproserie tout le temps. Et je pense que ça peut continuer comme ça, comme on a dit, continuer à soigner les malades qui sont capables de transmettre la maladie.
Alors, vous savez, on s'intéresse à la situation à Madagascar ce matin, mais nos auditeurs sont très curieux, ils ont beaucoup de questions sur la lèpre, et c'est normal parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors nous, on en parle ce matin pendant 2 heures, et on est très heureux de le faire avec vous, avec la Fondation Raoul Follereau. On a par exemple une auditrice, Marie-Françoise, qui nous dit « J'avais entendu dire que le vaccin contre la lèpre existait il y a quelques années, mais qu'il n'était pas fabriqué parce que sa production n'était pas rentable pour les laboratoires pharmaceutiques. » Bertrand Cauchois, est-ce que vous avez des informations à nous transmettre sur un potentiel vaccin contre la lèpre?
Alors, à la Fondation Raoul Follereau, on soutient notamment une équipe américaine qui travaille dans la recherche vaccinale. Donc, ce sont des espoirs. Il y a aussi 2 vaccins qui sont en test en Inde actuellement. Bon, malheureusement, c'est pas un outil dont on disposera d'ici 2-3 ans. Dans le meilleur des cas, ça sera 10 ans. C'est compliqué et c'est peu financé. L'auditrice, ce dont elle parle, il y a eu des essais vaccinaux combinés avec le vaccin qui est utilisé sur la tuberculose, qui est le BCG, qui a une petite efficacité sur la lèpre. Mais aujourd'hui, non, malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Dans ce que dit l'auditrice, il y a quelque chose de vrai, c'est que le financement d'un vaccin contre la lèpre, il ne peut être aujourd'hui acquis que grâce à la générosité publique. Il n'y a pas un laboratoire qui va se lancer dans la production d'un vaccin qui sera destiné à des gens non solvables, dans des pays peu argentés, et surtout avec une population limitée, et donc ça n'a rien à voir avec l'impact financier que peut avoir la production d'un vaccin comme le Covid.
On parle souvent, en parlant de la lèpre, que c'est la maladie de l'extrême pauvreté. Pourquoi on dit ça et pourquoi c'est valable à Madagascar, Bertrand Cauchois?
Ben, malheureusement, à Madagascar, comme dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des franges de population qui sont extrêmement pauvres, et la pauvreté, c'est une punition qui va entraîner des troubles au niveau de la santé. Lorsque, par exemple, on n'a pas fait de relation directe, par exemple, entre l'accès à l'eau, l'hygiène et l'émergence de la lèpre. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un malade qui n'a pas accès, un villageois, qui n'a pas accès à l'eau, qui n'a pas accès à l'hygiène, il va subir des agressions perpétuelles sur son corps du fait d'un manque d'hygiène, du fait d'une nutrition insuffisante, et du coup, son immunité va en pâtir. Et donc, du coup, cette pauvreté fait le lit de certaines maladies, dont la lèpre. Malheureusement, pas que la lèpre, mais en fin de compte, maladie de la pauvreté structurelle, lorsque dans un pays, les routes sont effondrées, l'accès aux soins est limité, c'est un lit pour favoriser justement l'émergence d'un tas de maladies qui affaiblissent le corps, et au niveau individuel, le manque de nutrition, tout ça favorise l'émergence d'une maladie. Et ce qui nous gêne sur la lèpre, c'est qu'à un stade débutant, la lèpre, ça serait absolument une maladie banale. Malheureusement, cette exclusion et cette pauvreté fait que le malade, il va venir vers les soins à des stades beaucoup plus tardifs.
Sœur Sabine, vous voulez compléter, peut-être?
Oui, là où nous agissons, par exemple, dans le région sud, pas tout à fait le sud, au plateau sud, il y a aussi une partie qui va vers un endroit très isolé où ils n'ont pas accès, justement, même pas à la route. Donc, ça, c'est tellement difficile d'aller déjà dépister là-bas, parce que nous, on fait des dépistages actifs, par exemple. On va dans un endroit très isolé, mais en ce moment où les états de route ne nous permettent pas, on va assez rarement. Et donc, il y a des gens qui nous attendent, qui attendent quand est-ce que nous allons venir. Et c'est là que c'est la pauvreté. Ils ne peuvent pas se déplacer vers nous parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et nous ne pouvons pas aller non plus à chaque fois quand ils ont besoin. Mais c'est limité, c'est à un rythme mensuel que nous y allons. Alors, quand la pluie arrive au moment où nous devons partir, on arrête les tournées qu'on doit faire.
Moi, je travaille avec des sœurs de la même communauté que sœur Sabine, qui sont, pour ceux qui connaissent Madagascar, dans la zone d'Ikung. Et récemment, nous avons fait une formation intégrée avec les personnels tant confessionnels que institutionnels. Et les sœurs d'Ikung qui sont venues à cette formation ont mis 24 heures pour se rendre à Maran, et on est à 200 kilomètres. Il faut savoir que les 80 kilomètres de piste qui les séparaient de la route goudronnée, ça a été un chemin de croix, si j'ose dire, puisqu'elles ont mis 12 heures. Les sœurs ont été obligées de faire un certain nombre d'heures de marche à pied. Puis elles ont trouvé une moto qui les ont amenées sur la route goudronnée, où là, elles ont trouvé un taxi-brousse. Et puisqu'on parlait du dépistage avancé vers les populations, nous, il nous est pas rare d'être obligés de renoncer parce que sur la route, on trouve des conditions qui nous permettent pas d'aller au village que l'on avait ciblé. Moi, c'est ce que j'appelle la pauvreté structurelle qui limite l'intervention du système de santé vers les populations et qui limite aussi l'accessibilité des populations à un système de soins qui, somme toute, reste aussi précaire.
On parle de la lèpre ce matin dans Je pense, donc j'agis avec nos deux invités, Bertrand Cauchois et Sœur Sabine. Si vous avez des questions à venir poser à nos invités, n'hésitez pas, vraiment, sur la lèpre, sur sa situation à Madagascar ou dans le monde. Et puis si vous êtes engagé dans la fondation Ralou Foloro, venez nous dire un peu ce que vous faites. 04 72 38 20 23, vous pouvez laisser vos messages par mail à direct@rcf.fr ou nous envoyer un message dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis. Sœur Sabine, que fait une infirmière quotidiennement pour les malades de la lèpre? Est-ce que vous pourriez nous présenter votre quotidien?
Bien sûr. Nous, le matin, par exemple, on prend les malades. On ne prend pas les malades, viennent vers nous. On ouvre donc l'endroit de consultation ou l'infirmerie et les malades viennent prendre leurs médicaments. Pourquoi à des adultes, il faut leur donner au quotidien les médicaments? Parce que ils sont tellement pauvres que même pas capables de se rappeler quelquefois de leurs médicaments si on leur laisse. On laisse par exemple une plaquette pour ceux qui sont en famille. Il faudrait bien une personne qui soit le garant pour lui rappeler s'il a pris le médicament. Et au centre, donc, c'est nous qui venons tous les matins à l'infirmerie distribuer les médicaments. Donc, ils viennent, nous, on a la liste, on leur donne, et puis on demande de leurs nouvelles aussi. Surtout ceux qui ont des douleurs, des néphrites, qui doivent avoir des médicaments en plus de leur PCT pour l'chimiothérapie qu'ils doivent prendre chaque matin pendant 12 mois. Et pour eux, je trouve que c'est astreignant aussi de se rappeler de ça tous les jours. Donc, c'est une aide que nous leur apportons. Donc, le fait de les attendre à l'infirmerie. Deuxièmement, on a les soins. Parce que les malades que nous gardons, c'est surtout ceux qui ont des problèmes de complications, des plaies, les maux perforants plantaires, c'est-à-dire à la plante des pieds, ils ont des grosses plaies.
Oui.
Ils peuvent soigner à la maison. Mais pour leur facilité aussi, pour avoir des déplacements à faire, nous, on les garde aussi au centre parce que le premier traitement de ces maux perforants plantaires, c'est le repos, reposer les pieds. Soit qu'on leur donne des cannes s'ils peuvent encore se déplacer, soit qu'ils se reposent les pieds pendant la journée, là, tout en faisant quelque chose assis, ou par leurs mains aussi. Ils peuvent travailler, par exemple, le jardin de la cour, nettoyer un peu la cour en enlevant les mauvaises herbes et puis en désherbant aussi. Et voilà ce qu'on peut faire. Et puis, l'après-midi, par exemple, on peut faire aussi une éducation Là, nous donnons aussi une place à une éducation, comment vivre avec la lèpre. Parce que c'est pas facile, même s'ils ont eu cette maladie depuis plusieurs années, ils oublient que ils doivent faire attention au feu, ils doivent faire attention aux blessures, ils doivent faire attention à beaucoup de choses. Donc, surtout le feu, qui ne se brûle pas, on leur rappelle toutes ces précautions-là, les yeux aussi qu'il faut protéger parce que les yeux s'affaiblissent et puis peuvent être agressés par beaucoup de choses, ne serait-ce que par la lumière. Donc, leur rappeler tous ces petits modes de vie à garder toute la journée.
Et Bertrand Cauchois, est-ce qu'une infirmière comme Sœur Sabine a des risques, est vulnérable aussi en cas de transmission? Est-ce que il y a des risques de transmission de la maladie de la lèpre? Est-ce que, à l'image du Covid, c'est une maladie qui est très contagieuse ou au contraire?
C'est une maladie qui est très faiblement contagieuse et c'est pour ça qu'elle fait son lit sur la pauvreté, parce que pauvreté veut dire souvent promiscuité, veut dire vie en... il est pas rare d'avoir des maisons où il y a des pièces de 10 mètres carrés où vivre une dizaine de personnes avec peu d'ouverture. Donc les conditions d'une transmission sont importantes, mais classiquement on dit que pour risquer de s'infecter avec la maladie, il faut un contact répété d'au moins un mois consécutif pour avoir un risque de s'infecter. Donc, Sœur Sabine, elle a peu de risques d'infection pour une raison déjà majeure, c'est que toutes les personnes qu'elle voit, dès qu'ils ont pris une dose de médicament, ils ne sont plus infectieux, donc ils transmettent plus la maladie. Je rajoute quelque chose au témoignage de Sœur Sabine, qu'elle a peut-être modestement oublié, c'est que Sœur Sabine, elle agit dans un dispensaire certes confessionnel, mais c'est un dispensaire aussi général. Elle a une consultation au quotidien et elle a des gens qui viennent régulièrement en consultation tous les jours. Ça fait partie de son activité. Et elle a un tropisme pour les maladies dermatologiques. Donc il y a beaucoup de gens de la ville de Fianarantsoa qui montent chez elle en disant on vient vous voir parce qu'on a des plaies ou des dermatoses, et ça c'est déjà une victoire. Ça veut dire que les gens ont intégré que chez la sœur c'est pas seulement un centre qui soigne des malades de la lèpre, mais c'est un centre qui s'ouvre à tous les malades et notamment les maladies dermatologiques. Et je dois saluer la plupart des centres confessionnels à Madagascar sont des centres, d'abord des dispensaires qui sont ouverts à toutes les maladies. Et ça, c'est vraiment déjà une forme d'intégration qui est absolument magnifique.
Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je suis contente qu'on parle de la lèpre. Enfin, on ne peut pas dire que c'est une maladie oubliée, mais c'est une maladie qui est tellement dégradante pour la personne qui la soigne. Ce que j'ai beaucoup aimé la vie du père Damien, dont je ne me rappelle plus le nom, à Hawaï. Et donc c'était une petite île, et on y a flanqué, on y a fourré, on a mis tous les malades de la lèpre autour qu'on a reconnu comme lépreux, et du coup ces malades étaient livrés à eux-mêmes. Ils n'avaient personne pour les soutenir, même pour leur donner, je crois qu'on leur donnait à manger un petit peu de loin pour ne pas se faire par la lèpre. Et c'était vraiment je crois que le père Damien était hollandais, je ne suis pas très sûre.
Il était belge, Joseph de Veuster, hein, pour être précis. Voilà. Mais ben merci beaucoup Marie-Josée, et ça complète le témoignage de Nathalie, je crois qu'elle nous en parlait tout à l'heure, au 04 72 38 20 23. Sœur Sabine, le père Damien, est-ce que vous le connaissez? En tout cas, il reste très présent pour tout ce qu'il a fait, notamment à Hawaï et sur l'île de Molokai.
Si, j'ai vu le film, j'ai lu aussi tout ce que je pouvais lire du père Damien. Et c'est vrai que ça aussi me touchait beaucoup et m'a donné courage donc d'affronter aussi un centre où on soigne les lépreux. Et je crois que le père Damien, c'était au début. Par contre, nous, maintenant, on a quand même, même si c'est peu, le nécessaire pour se protéger. Parce qu'il y a meilleure connaissance de la maladie et il y a les médicaments qui arrêtent la contagion aussi. Mmh. On sait aussi ce que c'est que l'hygiène autour de la lèpre et on a du moins de l'eau et du savon. Et c'est la meilleure prévention que je puisse dire aussi. Que si on se lave les mains régulièrement plusieurs fois par jour, on n'a pas trop de risques. Même après les pansements, on peut se laver les mains. Ça nous arrive même de faire des pansements sans gants, mais en se lavant bien les mains, et puis des instruments qui sont désinfectés aussi. Mmh.
04 72 38 20 23, c'est le numéro à composer pour venir discuter avec nos invités de la lèpre ce matin. On écoute Zaz.
Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre. Moi je veux vivre, rire libre. Ah la 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 la. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Il y a parfois des jours où le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux. De n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nom. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent pour que ça change tout. Moi je veux. C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre. Ah, da, 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre. Ah, da, 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux.
Couleurs vives. C'était Zaz pour vous accompagner sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h pour parler de la lèpre. Sœur Sabine, vous êtes infirmière à Marana, Madagascar, un centre de traitement anti-lèpre. Vous nous parlez de votre quotidien. Bertrand Cauchois, vous êtes médecin spécialiste de la lèpre et conseiller médical de la Fondation Raoul Folloreau. Bonjour Lynn.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à vous tous. Voilà, ma question est la suivante. Vous avez beaucoup parlé de Madagascar,
oui.
Tant mieux, mais je suis réunionnaise et je me demandais, moi, si aujourd'hui, à La Réunion, la lèpre est toujours là. Quand j'étais là-bas en 1963, je suis réunionnaise, hein, à cette époque, il y avait encore la léproserie à Saint-Bernard, à la montagne, dans les Hauts-de-Saint-Denis, la capitale. Et évidemment, c'était exactement comme vous dites, c'était des pestiférés. Et c'est anecdotique ce que je vais vous dire, mais enfin, les mamans qui accouchaient, on allait retirer leurs enfants, on leur retirait leurs enfants de force par les gendarmes, dont mon mari qui était parmi ceux-là puisqu'il y travaillait. Donc je me demandais si aujourd'hui, vraiment à La Réunion, si on n'a pas parlé de La Réunion, c'est parce que La Réunion a eu la chance de pouvoir profiter de soins, d'un budget qui permettait de vraiment traiter les lépreux.
Eh bien, bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée, Eline, au 04 72 38 20 23. Je me tourne logiquement vers vous, Bertrand Cauchois. Est-ce qu'on a des informations sur la situation de la lèpre sur l'île de La Réunion ?
Oui, on a des informations. Moi, je suis pas habilité pour parler à la place du ministère de la Santé, mais
oui.
À La Réunion, il y a quelques cas, mais qui sont essentiellement des cas importés du département de Mayotte, qui est tout proche. Et malheureusement, Mayotte, c'est un des derniers foyers de lèpre en France. J'ai pas les derniers chiffres, mais d'une année à l'autre, Mayotte dépiste entre 20 et 40 malades. Et bien sûr, il y a énormément d'échanges entre Mayotte et La Réunion, et donc à La Réunion, quelques cas de lèpre sont d'une part transférés de Mayotte pour d'autres pathologies intercurrentes, et il arrive que des patients de Mayotte en passage à La Réunion soient aussi dépistés. Il n'y a plus foyer de lèpre à La Réunion, et les cas qu'on dépiste à La Réunion sont aussi les cas qu'on peut dépister à Paris. Mais effectivement, j'insiste, on pense que la France est complètement exempte de lèpre. Il y a encore un foyer important à Mayotte, et de manière sporadique, on a aussi quelques cas, notamment en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. Moi, je voudrais juste aussi dire une chose, tous vos auditeurs ce matin vraiment nous confortent dans ce partage et dans cette joie, tous ces témoignages vraiment de gens qui rapportent leur vécu ou leurs impressions sur la lèpre, c'est formidable parce qu'aujourd'hui on doit sensibiliser, dire que cette maladie existe encore. Et c'est d'ailleurs pour ça que Sœur Sabine et moi-même, on est actuellement en France, puisque cette année, la Fondation Raoul Folleroux, elle fait le focus sur Madagascar, bah, à travers une campagne d'affichage et une campagne de presse tournée vers Madagascar et l'exemple d'une famille, notamment la maman et la petite fille, qui sont prises en charge par Sœur Sabine. Et c'est un petit peu notre fer de lance de la campagne de sensibilisation sur la lèpre cette année.
Et cette petite fille, elle s'appelle, alors j'ai essayé de bien prononcer, Sovina.
Sœur Sabine.
Sovina. Ah oui, bah alors j'étais loin. Ouais, Sovina. Je crois qu'il faut pas prononcer la dernière syllabe, non ?
Tout à fait.
C'est Bertrand Cauchois qui m'a conseillé ça hier quand on a préparé l'émission. Est-ce que vous pourriez nous parler de Sovina, Sœur Sabine ?
Oui, Sovina avait 5 ans quand elle arrivait avec sa maman et sa tante et son frère malade. Donc, ils étaient bien 4 sur les 6 personnes qui sont venues. Et plus tard est arrivée une jeune fille parce que les deux mamans ne pouvaient rien faire de leurs mains, ni préparer le repas, ni se laver et tout. Donc, on a demandé dans leur village s'il y avait une fille qui soit capable de s'occuper des deux mamans et de la maison. Pas pour étudier, pas pour rien faire, mais sauf qu'elle va rester à la maison. Finalement, on a réussi à la garder. Elle a fait du mal au début parce que elle, apparemment, elle n'avait rien. Et déjà, dans le village, on a dit, sa maman et sa tante, sa cousine, son cousin sont des malades. Donc, elle aussi, elle doit être malade. Mais finalement, elle a réussi à rester. Elle faisait bien ce qu'elle avait à faire, s'occuper des mamans et de la famille. Et petit à petit, quand les deux mamans se trouvaient un peu mieux, pouvaient faire quelque chose de leurs mains, ne serait-ce que balayer, laver et trier le riz, elle a quand même demandé d'aller rejoindre les enfants qui sont dans une petite école. Parce que dans notre centre, il y a une petite école. S'il y a 12 enfants, il y a 12 niveaux. Parce que c'est chaque enfant qui est pris à son niveau par une institutrice que nous appelons monitrice parce que elle ne peut pas être institutrice. Mmh. Et cette femme-là, c'est une ancienne malade aussi, qui n'a pas de séquelles, elle était bien malade, et c'est elle qui enseigne donc ces enfants-là l'écriture, la lecture, le calcul, et les préparer si les enfants peuvent aller dans une classe primaire en ville. Donc, Swavna, tout en étant malade qu'elle était, parce qu'elle était gravement malade, elle a mis peut-être un an avant de pouvoir rejoindre les autres à l'école. Mais comme c'est un enfant, elle allait quand même de temps en temps dans la classe pour jouer avec les petites, mais pas pour apprendre parce qu'elle se fatiguait vite au début. Mmh. Mais elle s'y est mise très vite. Donc après 4 ans comme ça, qu'elle est allée dans cette petite classe, donc elle est capable maintenant de suivre un niveau de CE2 et bien. C'est pas un CE2 qui traîne, mais c'est un CE2 parmi les meilleurs élèves. Donc ça, c'est, on a oublié de le dire, mais voilà, donc Swavna maintenant, après 3 ans, 4 ans peut-être, de douleurs, de souffrances, de prise de médicaments, de répétition, de traitement des complications, maintenant elle prend plus de médicaments, sauf quelques vitamines et des parasitages quelquefois. Et elle va en classe, elle est en bonne santé, très souriante, ceux ou celles qui ont déjà vu l'affiche en ville dira bien que c'est une fille saine.
Et je trouve, sœur Sabine, que ça rejoint ce que Nathalie nous racontait tout à l'heure, mais c'est qu'on voit vraiment la lumière dans le visage de ces deux personnes qu'on voit sur cette photo. Et j'invite vraiment nos auditrices et nos auditeurs à aller se rendre sur le site de la Fondation Raoul Folraud pour voir ça de plus près. Petite question subsidiaire, Bertrand Cauchois, avant de vous lire un témoignage. On a parlé de la situation, on parle de la situation en Madagascar, de la lèpre, on a parlé de l'île de la Réunion. Qu'en est-il de la France, hein, vraiment la métropole française? Évidemment, je pense au Covid, qui a énormément circulé dans le monde. Alors, il y a peut-être un peu de parano ici, mais est-ce qu'il y a un risque que la lèpre revienne en France?
Oh, le risque, je dirais qu'il n'existe pas. Maintenant, je suis pas devin, mais on a la chance en France d'avoir un niveau de vie qui est sans commune mesure avec celui qu'on rencontre dans ce que j'appelle la brousse africaine. En revanche, on peut avoir des importations de cas, mais encore une fois, le risque de transmission est tellement faible que il faut pas avoir peur de ça, sauf si la situation se dégrader considérablement.
Est-ce que c'est un virus qui mute?
Non, c'est une bactérie. Et c'est une bactérie qui dans le temps et à travers les siècles est restée à peu près la même. On a maintenant depuis une vingtaine d'années avec le séquençage du génome de la lèpre par un chercheur, Stewart Cole de l'Institut Pasteur, on a la capacité à regarder le génome de la lèpre des malades que l'on dépiste aujourd'hui et le génome de la lèpre qu'on retrouve sur des momies ou c'est des sépultures anciennes, et on s'aperçoit qu'il a peu évolué dans le temps, et c'est une bactérie qui ne mute pas beaucoup.
Je me souviens du mois que j'ai passé dans une léproserie à Marane, nous raconte Jacqueline. C'était en 1983. En tant que jeune infirmière, j'avais une image assez négative de la lèpre. Sans doute en avais-je un peu peur. Je souhaitais changer mon regard et j'ai eu cette opportunité de partir là-bas durant mon mois de congé. J'ai découvert là-bas des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, très accueillantes, très proches des lépreux. Ce fut pour moi un mois formidable, une belle leçon de vie. Certains étaient très atteints physiquement parlant, avec des lésions sur le visage, et je me suis aperçu qu'au fil des semaines, je ne voyais plus leurs lésions. Ils me semblaient heureux parce qu'aimés et accueillis tels qu'ils étaient. J'ai beaucoup joué avec les enfants sans crainte d'attraper cette maladie. Il semble cependant que le système routier ne soit pas amélioré, d'où une difficulté pour atteindre tout le monde. Et ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Bertrand Cauchois. Sœur Sabine, il est pour vous ce témoignage. Hein.
Merci.
Ça vous touche? Est-ce que vous, quand Jacqueline nous dit, je ne voyais plus leur liaison à force d'être avec toutes ces personnes.
C'est bien vrai, c'est tout à fait vrai jusqu'à maintenant. Cette joie, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense surtout c'est parce qu'ils se sentent aimés et accueillis. C'est des mots que je répète et que je fais mien aussi. D'ailleurs, nous, on s'appelle pas malade et tout ça, mais on appelle la grande famille. Donc, les soignants avec les malades, on forme une communion comme en famille. Donc, on peut s'entraider. Et là, vraiment, la joie, on voit sur le visage des malades. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y en a qui ont envie de repartir, il y en a qui veulent pas rester. Ça, c'est pas exclu, mais dans toute société, il y a toujours de ces personnes-là. Mais l'accueil, cet amour, cet accueil aussi se trouve dans les gens qui reviennent. Il y a des malades qui reviennent, avec quelquefois un petit poulet qui n'a même pas 3 mois pour dire merci, ma sœur. Tu m'as guéri, je n'ai que ça, mais je viens te rendre visite. Il vient pas pour demander, mais il vient pour partager cette joie et donner le peu qu'il a à Gisèle.
Bertrand Cauchois.
Oui, moi je voudrais aussi témoigner de cette joie. Moi, quand je vais chez les sœurs de Marane, c'est toujours une grande joie. C'est presque festif quand on arrive là-bas. Tous les malades viennent nous voir. Il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on connaît pas, et c'est vraiment une communication très saine et qui tranche avec l'isolement et la détresse qu'on peut avoir lorsqu'on arrive dans un village et qu'on retrouve un monsieur ou une dame ou un enfant tout seul dans sa case avec des plaies, avec de la souffrance. Et là, quand on arrive à Marane, on a souvent les mêmes malades, mais dans des conditions complètement différente, et on en parlait ce matin dans la première partie de l'émission sur les femmes et leur relative vulnérabilité. Le témoignage de sœur Sabine à propos de la petite Souavne, cette petite Souavne qui certes a été profondément affectée dans sa chair par la lèpre, et les traitements ont été difficiles pour elle parce que c'était un enfant. Je parle de traitement des préventions des infirmités. Cette petite fille aujourd'hui, elle a été sortie d'un village où elle était vouée à devenir ce qu'on appelle ménagère en Afrique et à être mariée toute jeune. Aujourd'hui, elle a une éducation et clairement, elle est pas du tout dans la même vulnérabilité que si elle était restée au village sans aucune éducation. Et ça, c'est une manière de lutter contre les mariages précoces et la vulnérabilité des femmes. Donc, toute cette éducation qu'apportent les congrégations religieuses, il faut vraiment la saluer. Ça change la condition de la femme. Je le disais, les femmes sont pas plus atteintes que les hommes par la maladie de la lèpre, peut-être même un petit peu moins, mais par contre la vulnérabilité générale, quand on peut lutter contre, et bravo pour Swavn, c'est un enfant qui est vraiment sorti des risques.
L'éducation, vous avez dit, Bertrand Cauchois, la sensibilisation également. Alors, on a beaucoup parlé de dépistage, de traitement, de prévention. La sensibilisation, c'est vraiment quelque chose à part entière pour la Fondation Ralouf Loro.
Nous, dans notre travail, pour maintenir la lutte contre la lèpre, il faut maintenir les compétences des agents et il faut s'adresser aux populations. Et population, c'est sensibilisation des populations, leur dire une tache sur la peau, c'est pas quelque chose de banal, c'est dire aussi la lèpre, c'est pas la fin du monde, et aussi sensibiliser, c'est aussi permettre de faire un plaidoyer au niveau des autorités. Donc nous, en gros, pour la prise en charge médicale, j'entends, On a trois axes, la prise en charge globale de la maladie qui va jusqu'à la réinsertion du malade. On a le maintien des compétences des agents de santé, qu'ils soient publics ou confessionnels, et un gros travail de sensibilisation pour expliquer ce que c'est que la lèpre.
Un mot de vocabulaire, parce que ça a son importance dans le volet sensibilisation. Donc, on ne parle plus de léproserie, Bertrand Cauchois. Hein,
oui, on ne parle plus de léproserie.
On ne parle plus de lépreux. Et on arrête d'utiliser l'expression c'est la lèpre.
Ben moi, ce qui me choquait dans des discours politiques il y a quelques années, qu'on entendait des présidents ou des premiers ministres dire mais ça c'est une véritable lèpre. Non, il faut. C'est surtout ça qui me choque, parce que bon, un malade de la lèpre, bon, la lèpre, on l'appelle comme ça. Ce qui fait qu'on veut retirer le terme lèpre et le terme lépreux, c'est parce que ce terme a été complètement galvaudé. D'abord, il a été chargé d'une histoire très négative, mais en plus, il a été galvaudé. Donc c'est pour ça qu'on le retire. Maintenant, je suis pas choqué quand ma sœur elle parle de léproserie, parce que les centres confessionnels qui travaillent à Madagascar sont souvent des héritages des léproseries. Marane a d'abord été une léproserie, ça a été un village qui a été construit sur l'exclusion. Ce sont des gens qui ont été rejetés, qui ont été poussés sur une colline à Fianarantsoa, dans la ville où habite Sœur Sabine, et plus tard se sont installées des communautés religieuses pour entourer ces malades. Aujourd'hui, ça n'a plus rien d'un centre d'exclusion, quand bien même de temps en temps quelqu'un parle de léproserie. Le terme léproserie, en termes isolement des malades, exclusion des malades, n'existe plus et ne doit être proscrit.
Alors on voyage beaucoup hein, ce matin dans Je pense donc j'agis. On était à Madagascar avec vous pour parler de la situation de la lèpre. Et ben on va vous emmener au Tchad avec notre chroniqueuse tout de suite. Oui, Stéphanie Gallet, vous êtes de retour avec, comme chaque jeudi, une photo sélectionnée par le CCF des Terres Solidaires. C'est l'opération Jeudi Photo. Alors, par quoi allez-vous commencer pour nous parler de cette photo?
Eh bien, la première impression quand on regarde cette photo, c'est qu'il fait chaud. La lumière est éblouissante, le ciel est presque blanc. Le ciel d'ailleurs, il s'étend sur la moitié de la photo. Hein. Le reste est occupé par un sol couleur de sable. Au fond, dans le lointain, on distingue quelques habitations, probablement des cases en terre sèche.
Alors, vous avez décrit la trame de fond de cette photo. Quels sont les éléments du décor à poser pour nous raconter notre histoire du jour? Car les photos du CCFD, en général, elles nous racontent toujours des histoires.
Bien sûr, mais n'allons pas trop vite, Melchior. Il y a maintenant un arbre très grand, à la très belle ramure, peut-être un baobab, mais je n'y connais pas grand-chose. Il occupe la partie droite de la photo, un peu en arrière.
Et sur la partie gauche?
Eh bien, c'est le cœur de notre photo, même s'il faut un peu s'approcher pour discerner ce que font ces gens sous un pauvre abri de paille et de branchages.
Peut-être qu'ils se protègent du soleil.
Oui, c'est une évidence, même si je ne suis pas certaine de l'effet parasol. Hein. Mais passons. Sous cet abri, il y a 10 grands ados. Ils sont assis sur des briques, on les sent un peu les trois. Et tous, hein, ils regardent et écoutent celui qui est devant eux et qui écrit sur une sorte de tableau.
Une classe de fortune. Et ces élèves écoutent leur professeur?
C'est ce que je me suis dit au début, mais il y a une femme debout à leur côté. Elle tient des fiches dans la main et regarde elle aussi celui qui est au tableau. Et du coup, je pense que c'est plutôt un élève qui fait un exercice au tableau. Mais oui, hein, vous avez raison, nous sommes bien dans une salle de classe.
Une salle de classe en plein air, vous l'avez dit Stéphanie, sans banc ni table.
Ni table, ni banc, ni cahier. C'est vraiment une situation d'extrême dénuement. Nous sommes au Tchad, dans une brousse reculée, au sud de N'Djamena. Ces enfants nomades ont parfois marché pendant plus d'une heure pour rejoindre leurs professeurs et leurs camarades venus d'autres campements dans cette école communautaire de Klesoum. Au Tchad, seulement 2% des enfants nomades seraient scolarisés. Les calendriers scolaires prennent peu en compte les spécificités liées à leur mode de vie pastoral. Et puis, le dérèglement climatique contraint leurs familles à migrer toujours plus loin à la recherche de pâturages et de sources d'eau. Alors face à ces enjeux, la plateforme COTAL, que soutient le CCF des Terres Solidaires, promeut la scolarisation des enfants nomades, et cela particulièrement auprès du gouvernement. L'accès à l'éducation demeure un enjeu vital pour les ethnies nomades du Tchad. Elles sont souvent marginalisées et le défi pour elles, c'est de permettre aux jeunes générations de faire perdurer leur culture tout en étant capables de défendre leurs droits civiques.
Et qui a pris la photo alors?
Eh bien, c'est Roberta Valerio. Rappelez-vous, c'est une photographe que nous avons déjà croisée dans cette chronique. Cette fois-ci, elle a séjourné dans ces tribus nomades et a accompagné les enfants sur le chemin de l'école. Alors, je crois avoir compris qu'elle a eu un peu peur de se perdre en suivant les enfants, car bien sûr, dans le désert, rien ne lui semblait balisé. En tout cas, il n'y avait aucun panneau de signalisation pour indiquer la route de l'école. Mais les enfants, eux, eh bien, ils savaient.
Pour découvrir cette photo, Stéphanie Gallet, une seule adresse, hein, rcf.fr, à la rubrique Jeudi Photo. Et puis, pour en savoir plus sur la scolarisation des enfants à travers le monde, direction le site du CCFD Terre Solidaire. Bertrand Cauchois, la situation de la lèpre au Tchad, est-ce que vous avez des informations à nous transmettre?
La photo, je l'ai pas sous les yeux, mais la description, je vois très bien l'image, j'ai l'impression d'y être. Et je dois dire que si on veut vaincre la lèpre, l'éducation est absolument fondamentale. Si on n'éduque pas, on peut pas communiquer, on peut pas traduire des messages d'hygiène, des messages de sensibilisation. La situation au Tchad, eh ben oui, quand on a 2% des enfants nomades qui sont scolarisés, ça veut dire que s'il n'y a pas d'accès à l'école, il n'y a pas d'accès aux soins. Malheureusement, c'est un pays qui est classé, on va dire, dans les 2 ou 3... pays les plus mal classés au niveau de l'indice de développement humain, et du coup ça se traduit par des conditions sanitaires qui sont pas très bonnes. Et en matière de lèpre, on dépiste environ 400 à 450 malades chaque année. Nous, on y travaille à la Fondation Raoul Follereau, pas seul, avec en partenariat avec le ministère de la Santé, mais avec d'autres ONG. On était à peu près à 250 cas de lèpre dépistés il y a 4-5 ans, et grâce à nos efforts, on est presque monté à 500 cas de lèpre dépistés. Ça ne veut pas dire que la situation s'est détériorée, ça veut dire que on va plus au devant des malades.
Et c'était important d'en parler ce matin pendant 2 heures dans Je pense. Donc j'agis. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous. Bertrand Cauchois, médecin spécialiste international quand même de la lèpre et conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau. Merci sœur Sabine également d'avoir été avec nous dans cette émission. Vous repartez quand à Madagascar, sœur Sabine?
Le 13 février.
Oui.
Je suis à Paris à la maison mère. 21 rue Méchain, 14e.
Melchior, je me permets une seconde. Vous parliez du Tchad. On a cet après-midi à l'Académie française sera décerné le prix Raoul Follereau, mais c'est un prix décerné par l'Académie française à une de nos collègues qui s'appelle Risqué, qui est engagée dans une mission évangélique contre la lèpre au Tchad, qui travaille étroitement avec nous. C'est la reconnaissance de son engagement et de son travail au Tchad.
Eh ben, tout est lié. Super. Merci beaucoup, Bertrand Cauchois, pour cette précision. Et puis, on peut, bien sûr, se rendre sur le site internet de la Fondation Raoul Follereau, qui agit depuis 70 ans contre la lèpre. Rendez-vous sur le site raoul-follereau.org. Merci à Pierre-Henri, Antoine, Catherine, Marie-Astrid, qui ont permis la réalisation de cette émission. On se retrouve demain, 9h-11h. À 9h, ce sera le Presse Club avec Étienne Pépin. Et puis 10h, prenez-en de la graine, votre émission de jardinage. À suivre, l'actualité locale sur RCF.